Alors, l'histoire de Ruth est une des histoires bibliques les plus connues. C'est une belle histoire. C'est une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. Il y a un happy end qui lui réchauffe le cœur. C'est une histoire d'un couple, de Ruth et de Boaz, d'une femme de grande valeur et d'un homme bienveillant. Alors, au risque de décevoir quelques-uns, ce livre de Ruth n'est pas la première ébauche d'un roman de Jane Austen. Il n'est pas non plus un manuel, un livre d'instruction sur comment trouver un époux ou une épouse, comment faire la cour à une fille, par exemple, même s'il y a certainement des choses à apprendre à cet égard des deux héros. J'espère, en route, on va voir à quel point Ruth et Boaz sont des exemples dans ce domaine aussi. Mais le grand héros de ce livre est Dieu lui-même, l'Éternel, Yahweh. C'est lui le Dieu qui prend soin de ses enfants, qui règne de manière souveraine sur nos vies et sur l'histoire tout entière. Nous verrons que c'est lui qui ressuscite les morts, qui renverse les malédictions, qui transforme ces malédictions en bénédictions. Et ça par les moyens tout à fait ordinaires de la vie de tous les jours. Cette histoire est son histoire. Ce récit est un microcosme, le récit en miniature de sa grande histoire, celle de l'univers tout entier, celle d'une rédemption, d'une restauration de sa création, d'un salut gratuit, immérité. C'est à lui que la gloire reviendra. Alors ce matin, nous allons nous pencher sur le début de cette belle histoire. Nous allons l'apprendre étape par étape, histoire de nous plonger un peu dans les détails de ce récit passionnant, de vraiment voir l'histoire. Alors nous y verrons un mouvement. Ça commence brièvement en Juda, ensuite dans le pays de Moab, donc les champs amers de Moab. Et puis il y a un départ pour la terre promise et au final une arrivée, un retour au pays. Alors si vous avez fermé votre Bible, je vous invite à la rouvrir et retrouver Ruth chapitre 1. Donc ça serait bien de pouvoir suivre verset par verset. Voilà, dans les champs amers de Moab. Verset 1. Au temps du gouvernement des juges. Alors l'auteur de ce livre nous est inconnu, on ne sait pas qui c'était. Mais il nous indique l'époque à laquelle ces choses se sont passées. C'était au temps des juges, c'est-à-dire il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. Et pour nous, ça fait il y a 3000 ans à peu près. Ça veut dire que le peuple de Dieu est déjà sorti de l'esclavage en Égypte. Le peuple a déjà passé 40 ans dans le désert avec Moïse. Et le peuple est déjà entré dans la terre promise avec Josué. Et en terre promise, les Israélites étaient gouvernés par des juges plutôt locaux. Et c'était une période sombre, une période de la histoire qui était vraiment très sombre. Il suffit de lire le livre des juges, donc c'est le livre qui précède le livre de Ruth. En effet, en fait, le dernier verset des juges, donc si vous avez sur la gauche, en fait, le livre des juges, le dernier verset de ce livre résume bien cette époque. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, juge 21-25. C'était le chaos, l'anarchie. Il n'y avait pas d'État fort, centralisé comme ici en France. David, le roi David, celui qui va descendre, qui est le descendant de Ruth et Boaz, n'est pas encore le roi. Et si vous jetez un coup d'œil sur le dernier mot du livre de Ruth, le dernier mot de ce livre, c'est David. Voilà, donc ça va dans ce sens-là. Donc David va devenir roi. Mais la période des juges, c'était une période sombre, d'éloignement de Dieu. Il y avait une famine dans le pays. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit du jugement de Dieu, d'un châtiment ? Une famine peut être synonyme de ça dans la Bible. C'est bien plausible. Mais bon, le texte ne le précise pas. Gros silence. En tout cas, verset 2. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans les champs de Moab. Alors la ville de Bethléem, dans l'heure de gloire à ce stade et toujours futur, c'est une ville, donc le nom veut dire littéralement la maison du pain. Voilà une chose ironique. Il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Ils partent au pays de Moab. Moab, pourquoi est-ce qu'on irait là-bas, au Moab, en Moab ? Moab, c'est l'ennemi héréditaire. Les Moabites adoraient un faux dieu, Kemosh, qui était honoré de sacrifices humains. Le récit biblique nous montre que cette nation a été fondée sur une relation incestueuse entre les filles de Lot et Lot lui-même. Pourquoi est-ce qu'on irait là-bas ? Elimelech, son nom, signifie littéralement « mon Dieu est le roi ». Mais ce nom semble aussi un peu ironique, parce que c'est un homme qui veut prendre son propre destin en main. Du moins, c'est ce qu'il pense faire. À cause de la famine, il quitte la terre promise et le peuple de Dieu pour émigrer avec sa famille en terre païenne, au pays de Moab. Fait-il preuve de pragmatisme ou de sagesse? Force est de constater qu'en ce temps de crise, son approche est plutôt masculine. Il s'évade, il s'éloigne de la communion fraternelle. Il éloigne sa famille, sa femme et ses fils de la communauté de Dieu, le peuple de Dieu, de l'Église en quelque sorte. Il tente de sauver les vies, c'est un homme courageux à plein d'égards. Mais a-t-il manqué de confiance en Dieu ? Aurait-il dû rester en Israël avec le peuple de Dieu ? Gros silence. Le texte ne tranche pas. Mais au verset 3, nous lisons « Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut. Elle resta avec ses deux fils. » En tout cas, Elimelech n'était pas maître de son destin. Il a laissé sa femme et ses fils seuls dans un pays étranger, dont le peuple adorait de faux dieux. Le verset 4 nous dit que ses fils épousèrent des femmes moabites, chose qui n'était pas formellement interdite, mais considérée comme dangereuse pour la foi. C'est vrai, nos décisions de tous les jours ont des conséquences. Les décisions des pères, des parents, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la famille, sur les enfants. Et Elimelech sauve sa famille d'une famine, mais il l'emmène dans un endroit où la famine de la parole de Dieu est grande. Les fils, Malon et Kilion, se marient avec Orpa et Ruth. Il y a donc une lueur d'espoir pour Noémie. Les fils se sont mariés. Ils vont faire leur vie. Noémie va avoir de petits-enfants. Mais 10 longues années passent. Il n'y a pas d'enfant. On sent la souffrance derrière ces mots. « Seigneur, pourquoi n'ai-je pas d'enfant ?» Gros silence. Il n'y a pas d'explication. Et puis verset 5. « Malon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta privée de ses deux fils et de son mari. » C'est la catastrophe totale. La destitution totale. Quoi de pire que d'enterrer ses propres enfants? Elle avait déjà perdu son mari et maintenant elle enterre ses enfants. Elle est seule, vraiment très très seule. Pourquoi? Où est Dieu? Gros silence. Rien. Pas de réponse. Pas d'explication. Avez-vous déjà rencontré ce silence? C'est vrai que ces questions trouvent un écho dans nos cœurs et dans notre expérience de la foi. Noémie est loin de son pays, loin de son peuple. Et franchement, c'est difficile d'imaginer toute l'ampleur de sa peine, de son angoisse. Sa famille est sur le point de disparaître à tout jamais. Mais au moment même où on commence à saisir l'ampleur de l'abîme qui s'est ouvert devant Noémie, il y a un tournant dramatique dans l'histoire. Versets 6 et 7. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle. Elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. L'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. J'ai dit en guise d'introduction que le héros de ce livre est Dieu lui-même. C'est lui qui nous donne notre pain quotidien. C'est Jésus qui nous le dit aussi dans le Notre Père. C'est vrai, avec nos supermarchés remplis de produits, on a tendance à l'oublier. Mais c'est Dieu qui nous donne notre pain quotidien. Cette histoire, c'est l'histoire de notre Dieu bienveillant et souverain. Alors, un des grands thèmes, sinon le grand thème de ce livre, est celui de la providence de Dieu. La providence de Dieu. La façon dont Dieu prend soin de ses enfants, prend soin de sa création. Dans la Bible, on voit que Dieu intervient pour le bien de l'homme de deux façons. Parfois, il intervient, il sauve de manière miraculeuse. On peut penser à l'Exode, à la mer Rouge. On peut penser aussi au miracle de Jésus. Mais parfois, il intervient de manière cachée, par des processus plus normaux de la création, de façon providentielle. Il nous donne la pluie. Il nous donne notre pain quotidien. Il suscite des personnes pour nous aider. Il œuvre dans nos circonstances particulières, par le biais d'événements et de gens ordinaires. Quelques-uns des pères pèlerins qui sont partis en Amérique ont fondé la ville de Providence. En fait, c'était un baptiste, un des premiers baptistes aux États-Unis qui a fondé cette ville, la ville de Providence. Et c'était leur façon de dire merci au Dieu qui a pris soin d'eux. Il ne l'a pas fait de manière miraculeuse, mais il l'a fait quand même. Et ils en étaient convaincus. Il y a 2-3 ans, lorsqu'on réfléchissait à une implantation d'église sur la Garenne, nous avons compris que la proposition de ce local et d'autres facteurs témoignaient de la providence de Dieu, que la main providentielle de Dieu était à l'œuvre. Dans ce petit livre de Ruth, il n'y a pas de miracle. Pourtant, Dieu est bel et bien à l'œuvre. Alors, il y a 2 attributs de Dieu qui sous-tendent la providence de Dieu. Le premier attribut est celui de la souveraineté de Dieu. Yahweh est souverain. Il est tout-puissant. Rien n'échappe à son contrôle. Il n'y a aucun pouvoir au-dessus de lui, ni ange, ni démon, ni quoi que ce soit. Il est le roi des rois, le souverain. Et le deuxième attribut est celui de sa bonté, de sa miséricorde. Dieu est souverain et Dieu est bon. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse au Sinaï, il s'est autodécrit en disant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » Alors c'est important de tenir ensemble ces 2 attributs. Dieu est à la fois souverain et bon. Noémie a vécu la disparition de son mari. Elle a enterré ses fils. Elle sait ce que c'est de souffrir sur le plan personnel et familial. Elle a vécu des drames. Et sur le retour vers la terre promise, Noémie dit à ses belles-filles, donc verset 13, « Mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. » Et au verset 20, un peu plus tard, de retour à Bethléem, elle dit, « Le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. » Noémie sait que de façon ultime, parce que Dieu est souverain, Dieu a permis qu'elle souffre. Dieu a permis ses souffrances. Dieu est souverain. Rien n'échappe à son contrôle. La vie de Noémie n'est pas en dehors de sa souveraineté. Les nôtres non plus. Mais si on pousse ce constat trop loin, Dieu est souverain, si on l'affirme trop énergiquement, à l'exclusion de ses autres attributs, on finira par dire que ce Dieu souverain est méchant, qu'il est un monstre cruel. Pourquoi me fait-il du mal? Pourquoi ai-je perdu mon emploi? Pourquoi mon enfant est-il né mort ou handicapé? Pourquoi m'afflige-t-il autant? Mais la Bible nous dit qu'il est bienveillant, qu'il est bon, qu'il est venu faire du bien, qu'il prend soin de nous. Dieu n'est pas méchant, loin de là. Dieu le souverain n'est pas en train de décréter le mal. Il n'est pas l'auteur du mal qui nous terrasse. Au contraire, c'est Satan, c'est le péché, les fruits de ce monde déchu qui nous font tant de mal, qui veulent nous détruire, qui veulent nous écraser. Mais en même temps, les voies de Dieu, les voies de Yahweh sont mystérieuses. On peut penser à l'histoire de Job. C'est Satan qui est le monstre qui veut faire du mal. Mais Dieu lui donne une permission limitée dans le temps. Satan n'est pas souverain. C'est pas lui qui a le dernier mot. Mais c'est vrai, par moments, la souveraineté de Dieu, la providence de Dieu peut nous sembler bien étrange, bien sombre. Il semble y avoir un silence assourdissant. Noémie n'a pas droit à des explications de ce qui se passe. Mais l'apôtre Paul nous dit, dans sa lettre à l'église de Rome, que nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. On l'a chanté la semaine dernière, mais la dernière strophe du cantique « Oui, en Dieu seul repose-toi mon âme » l'explique bien aussi. Voilà, je cite ce cantique. « Repose-toi, jamais Dieu ne t'oublie. » Et l'heure est proche où Jésus va venir. Tu comprendras les peines de ta vie et tu verras qui voulait te bénir. Ô que ta foi honore et glorifie Dieu qui t'aima pour l'immense avenir. Ça, ici-bas, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais Dieu n'est pas dépourvu par ce qui nous arrive. Il n'est pas faible. Il est souverain. Il n'est pas méchant. Mais il est bon, et selon son plan rédempteur, ce plan de nous transformer petit à petit en l'image de son Fils. Selon ce plan, le mal ne triomphe pas. Ce mal qui s'attaque à la volonté de Dieu, ce mal se trouve, malgré lui en quelque sorte, instrumentalisé par le Dieu souverain, qui transforme ce mal en notre bien ultime. Même si cela nous dépasse, Dieu permet ses afflictions pour nous discipliner, pour nous former, pour nous façonner. Une famine dans le pays, un départ vers un pays étranger, la stérilité. Le livre de Ruth a plein d'échos qui nous rappellent l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Dieu n'est pas absent, il n'est pas dépourvu par ces circonstances difficiles. Il est à l'œuvre, il est souverain et il est bon. Revenons à Noémie, Ruth et Orpa, à cette déchirante conversation qui a lieu quelque part sur la route entre Moab et Juda. Noémie aime ses belles-filles, elle cherche, elle veut leur bien. Et c'est pour ça qu'elle les renvoie vers la maison de leur mère. Et c'est pour ça qu'elle prie l'Éternel, donc verset 8. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari, qu'il use de bienveillance. Noémie sait que Yahweh est bon, qu'il est le Dieu bienveillant de l'univers, souverain même dans le pays de Moab. Et elle fait appel, elle prie, elle fait appel à son caractère bon, bienveillant et fidèle. La souveraineté de Dieu ne l'empêche pas de prier. Noémie n'est pas une fataliste. Elle ne dit pas bah, « Dieu fera ce qu'il fera ». Quand bien même je prie ou ne prie pas, elle prie parce qu'elle sait qu'il est souverain et qu'il est bon, qu'il peut faire du bien et il veut faire du bien. Et on sait que la prière de Noémie, du moins pour Ruth en tout cas, est d'une grande efficacité. Noémie veut le bien de ses filles. Elle veut que ses belles filles aient l'occasion de recommencer leur vie. Vous savez, à cette époque-là, le mariage... Il est encore à plein d'égards aussi, mais le mariage était particulièrement une chose économique. C'était un foyer, il y avait la protection d'un mari, la provision matérielle, la naissance d'enfants qui allaient veiller sur les parents dans leur vieillesse. Mais Noémie, elle, est dans le dénuement total. Elle ne peut rien offrir à ses filles. Et c'est pour ça qu'elle les confie aux tendres soins de l'Éternel. Verset 9. Et 10. Elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, « Non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. » C'est vrai, ces femmes ont vécu tant de choses ensemble. Et des liens qui... Il y a dû avoir vraiment des liens très très forts qui les unissaient. Mais Noémie revient à la charge. « Rentrez, rentrez, je vous en supplie. Avec moi, vous n'avez aucune chance de vous remarier. » À cette époque-là, il a été coutume pour le frère du défunt, le frère, de se remarier avec la veuve de son frère, si ce couple n'avait pas eu d'enfant. C'est une histoire de prolonger la lignée familiale de son frère. Et Noémie leur montre que cela soit impossible, que cela soit, c'est aberrant de même y penser. Noémie est bien trop vieille, c'est hors de question. Il faut qu'elle rentre, qu'elle rencontre de jeunes hommes moabites. L'une d'elles, Orpa, se laisse persuader. Elle rentre vers son pays et vers ses dieux païens. Mais Ruth, elle est têtue, elle persiste ses signes. Elle ne veut rien entendre d'un retour éventuel. Pour elle, c'est inconcevable de quitter sa belle-mère qui a tant besoin d'elle. Elle fait preuve d'une foi extraordinaire, exemplaire. Mon frère et ma belle-sœur ont utilisé les paroles de Ruth pour leur vœu de mariage. C'est vrai que le contexte de ce passage, ce n'est pas d'abord le mariage, mais c'est quand même un serment solennel qui est comme lors d'un mariage. Donc Ruth dit à Noémie, verset 16, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Ruth s'attache à Noémie. Elle s'attache à l'Éternel pour le meilleur et pour le pire. Elle renonce à son pays, elle renonce à ses dieux et elle s'attache au Dieu vivant et vrai. Elle cherche un abri sous ses ailes protectrices. Elle ne cherche pas à se remarier, vaille que vaille, coûte que coûte. Cette espérance, et on va le voir plus tard, n'empêche, c'est une espérance réelle. Elle veut se remarier, mais cette espérance passe au second plan. La peur de ne pas avoir d'enfant, une crainte extrêmement puissante, surtout peut-être à son âge, Ruth a déjà vécu 10 ans de mariage. Cette peur, cette crainte ne la détourne pas de son Dieu. Comme Abraham, mais sans avoir entendu une voix, comme Abraham a entendu la voix de Dieu, sans avoir vécu une expérience de conversion spectaculaire, Ruth se met en route pour un pays inconnu. Elle s'attache à Noémie. cette femme qui partage sa foi. C'est hors de question pour Ruth de se priver de cette communion fraternelle. Verset 18. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Les deux arrivent à Bethléem. Alors dans cet épisode, Ruth passe à l'arrière-plan et Noémie se trouve au premier plan. Noémie ne se rend pas encore compte de la valeur de sa belle-fille. Leur arrivée suscite de l'émoi. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet et les femmes disaient « Est-ce là Noémie ?» Ça fait au moins 10 ans, voire 20 ans qu'elle est partie. C'est l'émigrée qui est de retour, celle qui est partie chercher une vie meilleure ailleurs. Noémie leur répond, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. » Le prénom Noémie veut dire « douceur » ou « la charmante ». Noémie ne veut plus de ce prénom qui n'a rien à voir avec la réalité de sa vie. Mara, qui veut dire amère, lui convient mieux. C'est une vieille femme, amère, pleine d'amertume. Et elle ne le cache pas. Ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, pas trop mal. Mais en cachette, on crie à Dieu. Pourquoi m'as-tu tant affligé? Pourquoi permets-tu que je passe par là, que cela m'arrive? Mais Noémie ne cache pas qu'elle va mal. Elle ne blâme pas autrui. Elle aurait pu peut-être blâmer son mari, je pense qu'il y est pour quelque chose quand même. Mais elle est brutalement honnête devant ses frères et sœurs. Elle est brutalement honnête devant Dieu. Dieu, ma vie est nulle, tu vas mal, je ne comprends pas. Je sais que tu es là, mais comment se fait-il que tu sembles si loin? C'est vrai qu'il y a un temps pour tout, hein. Il y a des moments plus ou moins convenables pour se dévoiler. Mais ne faisons pas semblant que tu vas bien quand nous allons mal. Soyons authentiques devant Dieu. Ce n'est pas facile, moi je ne le trouve pas facile. Mais en tout cas, Noémie est un modèle à cet égard. La vie peut être dure. Très dur. C'est une évidence que certains ici connaissent mieux que d'autres. Mais la providence de Dieu ne nous aveugle pas. Elle nous permet de voir la dure réalité en face. Certes, les voies de l'Éternel sont souvent mystérieuses. Il ne nous fait pas toujours passer par les chemins les plus faciles. Mais Yahweh est à la fois souverain, tout-puissant et bon. Bienveillant. Il veut notre bien. Avec lui, tout concourt à notre bien ultime. Et la suite du récit de Ruth va nous le montrer. Verset 22. Elles arrivèrent à Bethléem, au début de la moisson des orges. La moisson des orges. Il y a de l'espoir. Il y a du pain dans la maison du pain. Dieu est intervenu. Il est miséricordieux et bon. Ce passage nous invite à nous retourner vers l'Éternel, vers celui qui est souverain et bon. Mettons notre foi en l'Éternel. Qui est l'Éternel? Le Nouveau Testament nous montre son visage. C'est Jésus lui-même, notre Maître et notre Dieu. Dieu a pris une nature humaine. Il est devenu semblable à nous à tous égards, sauf pour le péché. Il a connu l'affliction, l'injustice, la mort. Il peut compatir avec nous, mais le mal n'a pas triomphé de lui. Les hommes lui ont montré leur haine meurtrière. Mais Dieu, parce qu'il est souverain et bon, s'en est servi pour leur salut, leur bien ultime, leur pardon, notre réconciliation avec Dieu. Un tel Dieu est digne de confiance. Je vous invite à la prière. Prions.